RMC, Intégral Foot, Roland Courbis, Gilbert Bribois.
L'intégral foot jusqu'à 18h. Ensuite, comme toute la semaine, l'athlétisme de 18h à 23h en direct de Londres pour une grande soirée d'athlètes. On va encore se régaler ce soir. On espère du grand spectacle comme hier avec la médaille d'or de Pierre-Ambroise Boss et la médaille de bronze de Renaud Lavillenie. Donc l'athlétisme de 18h à 23h sur RMC et l'after de 23h à minuit. Ensuite, coach, on va parler de Lyon tout de suite. Oui. On va débattre dans quelques minutes de la situation lyonnaise. Jusqu'où peut aller l'OL cette année, 32-16, on vous attend. Edouard Gé qui suit Lyon toute l'année sera avec nous. Mais tout de suite, nous accueillons le milieu de terrain lyonnais, Lucas Touzard, l'homme qui monte à Lyon et dans l'intégral foot. Bonjour Lucas.
Bonjour à vous.
Salut Lucas.
Alors, première question Lucas, quelles sont les ambitions cette année de Lyon? Nous, tout à l'heure, on va faire un débat avec coach pour essayer de déterminer jusqu'où peut aller Lyon cette année. Vous, jusqu'où est-ce que vous vous voyez aller cette année?
Bon, alors tout d'abord, c'est vrai qu'il y a eu pas mal de changements cette année. Il y a beaucoup de joueurs qui sont partis, des joueurs clés, l'année dernière. Donc, il y a eu un recrutement de fait. Donc il y a des nouvelles choses qui sont mises en place du côté du club, une nouvelle politique, on peut appeler ça comme ça. Et voilà, donc c'est vrai que les ambitions sont revues forcément à la hausse vu que on investit dans d'autres joueurs. Pour nous l'objectif c'est de finir dans les trois premiers en championnat. Je pense que l'année dernière le trio de tête a mené un rythme qu'on n'a pas pu suivre sur la durée et puis de bien figurer, essayer de faire au mieux quoi de l'année dernière en Coupe d'Europe ou voire mieux si possible.
Ben écoute, dans tous les cas ça me paraît être logique et cohérent tout ce que tu peux nous dire. Déjà, je te félicite pour tout ce que tu fais parce que c'est pas du tout simple de s'imposer dans un effectif comme Lyon, à un poste où il y avait beaucoup de joueurs, je pense notamment à Gonalon, voire Tolisso. Mais justement, si ces joueurs-là sont partis, c'est aussi parce que derrière, il y avait des joueurs de qualité dont tu fais partie, je pense à Ferry aussi et à Dardère. Donc là, ça me paraît être une étape très importante pour toi que je te vois assumer sans l'ombre d'un problème parce que je te trouve quand même assez concentré, décontracté dans tout ce que tu fais.
Ensuite, oui, c'est vrai que depuis, je t'ai coupé pendant un
moment. Non, je t'en prie.
Ça fait trop de compliments, coach. Je laisse répondre.
Ben oui.
Il y avait une. Non, c'est vrai que l'année dernière, je suis m'imposé. Ça n'a pas été facile. C'est vrai que quand on arrivait, maintenant c'est l'année dernière. Quand on arrive, j'arrivais à Lyon. C'est vrai que c'est un peu compliqué,
Ah ouais, tu voyais quand même ta zone avec un certain embouteillage.
Ouais, c'est ça. Il y avait beaucoup de monde et tout, donc du coup, je me disais, quand est-ce que va venir mon tour? Et petit à petit, j'ai fait mes preuves et c'est vrai que maintenant, ça s'avère payant. J'ai pris plus d'ampleur dans le groupe et avec les départs de Max et Coco, c'est vrai que je suis amené prendre un rôle un peu plus important. Donc c'est une bonne chose pour moi et c'est vrai que ça va être une année, une année de confirmation. Parce que l'année dernière, c'était absolument la découverte. Voilà.
Lucas Touzard est avec nous au milieu de terrain lyonnais. Alors, l'OL fait savoir aujourd'hui qu'il y a quand même encore un recrutement qui devrait se faire au milieu, donc dans la zone de Lucas. Donc, il va y avoir du monde. Bon, évidemment, il y a la Coupe d'Europe aussi à jouer. Donc, il faut de l'effectif.
Il y a quand même un calendrier. Pardon ?
Il y a beaucoup de matchs, c'est ce que je veux dire. Il y a beaucoup de matchs. Donc, ça, c'est vrai que s'il faut avoir une profondeur de banc derrière pour pouvoir assumer toute une saison comme ça à plus de 60 matchs.
Quand les gens disent Lucas Touzard, ils disent ah oui, c'est le petit Lyonnais qui a été formé à Lyon. Mais enfin, c'est pas tout à fait vrai, vous n'avez pas été formé à Lyon.
Non, c'est vrai, c'est la petite histoire. C'est vrai que il y a beaucoup de monde qui pense ça parce que avant, ils m'avaient pas vu, ils m'avaient vu dans les équipes de jeunes, que ce soit avec la Gambardella et tout, avec Lyon. Mais voilà, j'ai été formé à Valenciennes et j'ai commencé ma carrière pro là-bas.
Et tu es arrivé à Lyon il y a combien de saisons?
Maintenant, ça va faire ma troisième saison que j'en ai. Je suis arrivé en août 2015.
D'accord, d'accord.
Voilà, et puis bon, il y a eu aussi les sélections en équipe de France des moins de 19, moins de 20, équipe de France Espoir également. Donc ça veut dire que, Lucas, l'objectif de cette année, c'est d'être un titulaire indiscutable dans le milieu lyonnais, c'est ça, l'objectif individuel de Lucas Touzard?
Tout à fait, individuellement, c'est ça mon objectif. Voilà, il faut que je confirme. C'est vrai que l'année dernière, j'ai pu faire une très belle saison. Voilà, maintenant, c'est à moi de confirmer ça sur celle qui va venir, et voilà, j'ai tout vraiment pour m'imposer au mieux.
Oui. Lucas, nous on est des passionnés, on regarde, et d'ailleurs les compliments que j'ai pu te faire, ils sont tout simplement logiques et mérités. Dans la marge de progression que tu peux avoir, mais aussi dans l'évolution de ton jeu en t'habituant maintenant à être titulaire, dans cette évolution, tu te vois, si on parle en numéro 6, 8 ou 10, tu te vois évidemment pas un 10, ça je pense pas, mais plutôt un 6 ou un 6-8.
Alors c'est vrai que bon, le 10 déjà, non, faut oublier. Non, après c'est vrai que pour moi, je pense avoir plus les qualités. C'est vrai qu'il y a eu un petit peu débat sur le double pivot l'année dernière avec Max Gonalon, 2-6, ça joue pas assez vers l'avant et tout. Donc non, c'est vrai que moi j'aime bien jouer en 6, ouais, pur 6, mais avec la possibilité de se projeter vers l'avant.
Ouais. Alors donc voilà. Si tu veux, dans l'organisation qui te faut ou qui te faudrait, si je peux m'exprimer ainsi, c'est plutôt d'avoir 2-6, dont un qui puisse monter d'un cran quand on a le ballon pour passer en 8 et pas cette obligation de sentinelle. Quand on dit sentinelle, c'est que pratiquement le gars il a pas le droit de s'intégrer.
Oui, je comprends. Oui, non, mais c'est ce qu'on fait actuellement avec là sur le début de saison, quand je suis associé à Sergi Darder, c'est vrai que lui il est plus porté, on va dire, sur le poste de 8, donc il a plus les qualités pour on va dire pour faire le relais entre le milieu et l'attaque. Et c'est vrai qu'au poste de 6, on a une belle complémentarité entre lui et moi. Et pour sur le positionnement, on est tous les deux en 6, mais naturellement il se fait que lui va plus haut et moi un peu plus bas. Donc ça, c'est vrai que j'affectionne bien ce poste-là et cette association avec Sergi.
Lucas Touzard est avec nous dans l'intégral foot milieu de terrain lyonnais. Donc on a entendu que Lyon visait le podium. Bon, ce qui semble assez logique, hein, Roland, ouais. Vu les possibilités lyonnaises, vu l'effectif.
Maintenant, moi, je vois les choses un petit peu différemment. C'est-à-dire que compte tenu du recrutement et de l'intersaison que nous sommes en train de vivre, et compte tenu que le Paris Saint-Germain n'a pas terminé encore son recrutement, je ne m'imagine pas une deuxième année consécutive le Paris Saint-Germain ne pas être champion. Donc je crois qu'il va falloir s'habituer pour Lyon, Nice, Marseille, bon, je vais pas citer 10 clubs, je cite un petit peu ceux qui se sont rapprochés là avec Monaco du Paris Saint-Germain la saison dernière, et Monaco a même terminé devant. Donc je pense qu'il va falloir s'habituer dans nos commentaires à un titre, c'est-à-dire un autre titre, qui est tout simplement celui de vice-champion, à savoir terminer second. Eh ben, c'est pas un déshonneur. Quand tu rentres des Jeux Olympiques et que tu as une médaille qui s'appelle la médaille d'argent, eh ben, tu l'as faite. Et si aujourd'hui, avec ce monstre qui est Paris Saint-Germain, tu termines second, eh ben, ça sera une grande joie et pas une grande déception, parce que tu pourras faire la Champions League sans passer par les matchs de barrage. Je crois qu'on ne peut pas avoir tout, c'est-à-dire être content de l'arrivée de Neymar. On nous explique qu'il va peut-être y avoir aussi Mbappé, plus un autre joueur. Bon, ben ça va. Là, on est obligé sportivement de s'incliner, même si on tentera chaque fois qu'une équipe rencontrera le Paris Saint-Germain de faire l'exploit. Mais habituons-nous à faire en sorte que la place de second est très 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 importante.
Lucas, d'accord avec coach?
C'est vrai que c'est bon, si on peut appeler ça soit un problème, soit on peut appeler ça voilà, une évolution du foot en France. C'est vrai que
évolution positive pour la Ligue 1.
Évolution. Non, oui. Je parle d'évolution positive. Voilà, c'est vrai que l'évolution. Ils recrutent des joueurs, voilà, de classe, même dans les top 3 des meilleurs joueurs du monde. Donc c'est vrai que à un moment donné, on peut pas comparer. Voilà, ce qui est comparable. C'est vrai que c'est compliqué maintenant de rivaliser avec ces équipes. Je pense qu'ils vont encore se renforcer. Voilà, après, même si voilà, c'est pas forcément toute l'équipe, mais ils ont quand même un effectif voilà, très fourni, et voilà, c'est vrai que maintenant ça va être compliqué de rivaliser avec eux, même de plus en plus, je pense, à l'avenir même.
Donc, alors, voilà, parmi les recrues lyonnaises, là, bon, alors il y a Marçal, Mariano, Ferland Mendy, Bertrand Traoré, il y a pas mal de monde qui est arrivé.
Ça fait une belle équipe. Malgré les départs importants qu'il y a, ça fait une belle équipe.
Quel est celui qui, je sais pas, qui vous impressionne le plus là, à l'entraînement, en match, le gars où vous dites waouh, lui, il va vraiment nous faire du bien.
C'est vrai qu'ils ont tous quelque chose de particulier, mais si je devais en sortir qu'un, c'est vrai que Bertrand Traoré nous avait fait très très mal la saison dernière en Coupe d'Europe. Et là, c'est vrai que depuis qu'il est rentré dans l'équipe, voilà, il nous fait extrêmement de bien. Il a des qualités de vitesse.
Ouais, il fait du mal, mais aux autres.
Ouais, c'est clair. Voilà, ça change un peu la donne. Non, mais c'est vrai que c'est un joueur à fort potentiel, et à mon avis, voilà, en continuant comme ça, à l'avenir, il peut vraiment faire des belles choses avec nous à Lyon.
Entre Diaz et Lacazette, vous perdez au change ?
C'est différent. C'est vrai que Alex, on sait tous ce qu'il pouvait nous faire. C'est vrai que la saison dernière, au niveau de l'attaque, tout reposait un peu sur lui. Voilà, Mariano, c'est encore un jeune joueur qui arrive du Real, donc il a plein de choses à prouver. Mais voilà, je pense que ça peut être aussi une très bonne pioche de notre côté. Et voilà, maintenant il faut qu'il s'affirme et qu'il continue dans cette voie-là. Il a fait un très bon premier match. Et voilà, il faut qu'il.
Et moi, je pense qu'il y a une recrue qu'on néglige. Tu vois, c'est capitaine.
Ah, capitaine Fekir.
Voilà.
c'est pas forcément une recrue, mais oui, c'est vrai.
Mais moi, je pense que vu. Sa morphologie là, et maintenant son brassard, ben il est possible qu'on ait un nouveau joueur, c'est-à-dire le joueur qu'il était avant sa blessure, c'est-à-dire tout simplement un joueur pour moi exceptionnel.
Non, c'est vrai que Nabil, il est moi je suis pas étonné par rapport à ça. C'est vrai que à l'entraînement et tout, il a toujours fait des choses exceptionnelles. C'est vrai que même si après sa blessure, voilà, il y a eu un coup de moins bien, mais je pense que c'est normal. Après une telle blessure, c'est compliqué de se remettre tout de suite à son meilleur niveau auquel il était avant. Mais à l'entraînement, il a toujours fait des choses incroyables. Et cette année, il est revenu très très bien à la préparation physique. Et là, ça se voit sur ce début de saison, ça paye. Et je pense qu'à mon avis, voilà, sur la saison, il peut nous faire gagner beaucoup de points s'il continue comme ça. Et en plus, avec le brassard, il a pris une autre, il va prendre une autre dimension.
Il est comment d'ailleurs, parce que c'est pas un gars super expansif. Enfin, pour ce que nous on voit, depuis qu'il est capitaine dans le vestiaire, il est comment ?
Non, il n'a pas forcément changé, mais c'est vrai que voilà, il était capable aussi avant de prendre la parole. Je pense que c'était important pour le club et pour l'équipe que ce soit quelqu'un qui était formé au club qui prenne le brassard. Et c'est vrai que voilà, pour le moment, Nabil, il fait bien son taf, et je pense que ça peut nous apporter à tous d'avoir un capitaine comme ça. Et c'est vrai que voilà, ça va le faire grandir, à mon avis, lui aussi. Et ça peut que être une chose positive pour lui et l'équipe.
Absolument.
Merci beaucoup, Lucas Touzard. Et bah écoutez, bonne continuation. On souhaite que.
Salut Lucas, et.
C'est gentil.
Bonne saison.
Que vous imposiez, donc, puisque c'est votre objectif. Bonne journée, à très bientôt.
Continue comme ça, si je peux me permettre.
Merci.
Voilà pour Lucas Touzard. On a enregistré cette interview il y a quelques minutes, Roland, puisque il y avait une obligation liée à l'OL en ce moment. pas mal de réactions concernant Lucas Touzard. Romain, par exemple, qui nous dit « Lucas, c'est un 6-8, tout l'inverse de... » Ah non, c'était une mauvaise blague sur l'Avezzi. Bon, bref, de Rome 1. « Il est cash, ce Lucas Touzard », nous dit Romario. « J'aime son discours. » Et puis, j'ai également Jérôme sur le hashtag RMC Live qui nous dit « Espérons que Touzard ait un parcours à la Tolisso. » Alors, je pense peut-être plus le comparer à Gonalon qu'à Tolisso, en fait, hein, si, vu ce qu'il nous explique sur son positionnement.
Oui, parce que Tolisso, on peut dire que c'était plutôt un 8, même pouvant jouer 10.
Voilà, il jouait même parfois, parfois en attaque, il a même joué. Donc,
mais c'est vrai qu'une des raisons du départ de Tolisso, peut-être pas, parce qu'il y a quand même une somme qui est difficile à refuser, mais vu la petite somme de Gonalon, 5 millions d'euros, je pense que Lyon a fait cette affaire-là. Cette transaction passe derrière, il savait qu'il y avait tout ça.
Oui, en effet, donc ils avaient la relève qui était là, qui était présente.
Absolument. Voilà.
Et puis il y a aussi le cas d'Arder, parce que Darder, il n'est pas très content de son sort. Darder, il aimerait bien jouer un petit peu plus. Qu'est-ce qui va se passer cette saison pour lui? On rappelle les deux infos mercato. Lyon va encore recruter dans ce secteur de jeu. Et Morel reste, alors qu'il était éventuellement annoncé en contact avec Bordeaux ces dernières heures. Voilà. Bon. Dans quelques secondes, Lyon toujours au programme avec Edouard G qui va nous rejoindre au 32-16, on vous attend. Jusqu'où peut aller l'OL cette saison suite à l'interview de Lucas Touzard? On a un peu plus d'éclairage, on vous attend pour débattre tout de suite dans l'intégral foot sur RMC.
RMC intégral foot, Roland Courbis, Super Grégoire.
Coach Lyon au programme de l'intégral foot avec Edouard G qui nous rejoint. Il suit l'OL au quotidien, bien sûr, pour RMC Sport. Edouard, bonjour.
Salut Gilbert, salut coach.
Salut Doudou.
Salut, salut.
Alors, juste un mot sur Lucas Touzard, que tu suis évidemment depuis ses débuts à l'OL. Est-ce que toi, qui le vois jouer, est-ce que tu es confiant sur le fait qu'il soit cette année un titulaire indiscutable et qu'il monte en puissance comme le club l'attend?
Oui, bah c'est d'ailleurs un petit peu pour ça que du côté de l'OL, on a joué un petit peu le bras de fer, qui n'a pas été un bras de fer d'ailleurs, c'est tellement il était de fer d'un côté et qu'il n'y avait aucune possibilité de revenir. Je veux parler bien évidemment du bras de Jean-Michel Aulas, on en a parlé au mois de mai, juin, après les discussions, la sortie, on n'a pas rappelé tout l'épisode par rapport à Max Gonalon. C'est justement parce que on savait du côté de l'OL qu'il y avait Lucas Touzard que on a poussé vers la sortie Maxime Gonalon, en sachant que coach t'es toujours enclin à bien connaître toutes ces petites données. Il y a quand même quelque chose qui est assez extraordinaire dans son parcours, c'est que l'année dernière, à la même époque, voilà, il voit que Maxime Gonalon va être titulaire, ça va être difficile pour lui d'être titulaire, et puis tout d'un coup à la mi-septembre, Maxime Gonalon prend un rouge face à Bordeaux, il prend 4 matchs de suspension. Pendant ces 4 matchs, Lucas Touzard est impeccable, et c'est là qu'il gagne ses galons de remplaçant vraiment sur le terrain de Maxime Gonalon. Et puis la suite, on la connaît. On se dit, en tant que suiveur de l'OL, s'il n'y avait pas eu ces 4 matchs-là, est-ce que, à un moment donné, le sort de Maxime Gonalon au mois de mai dernier aurait été le même? Mais en tout cas, clairement, quand il a été recruté à Valenciennes pour faire sa post-formation à l'OL, comme il l'a précisé, c'était clairement pour l'avenir après Maxime Gonalon.
Alors, maintenant la question est la suivante. Que peut espérer l'OL cette saison? Jusqu'où l'OL peut-il aller? Alors le podium est l'objectif annoncé tout à l'heure par Lucas Touzard. Coach, tu as toi développé le concept de vice-champion de France.
Ben oui. Hein, je crois qu'il va falloir s'y habituer et s'habituer à ce que ce soit une place presque comme un titre.
C'est ce qu'on dit aussi au club, Edouard?
Bah, en tout cas, on veut retrouver l'Europe. Alors, on n'a pas précisé la couleur de cette Europe.
Ça fait le coup il y a quelques années.
Ouais, la grande ou la petite. Bah, tout simplement parce que ça répond un petit peu à la question. C'est que pour l'instant, c'est un petit peu rendez-vous en terrain inconnu, hein, l'OL. On ne sait pas trop exactement ce que ça va donner. Ce matin, en conférence de presse, Bruno Genesio l'a interrogé et il a dit, on jugera au bout de 8 à 9 journées, voire 10. Hein, coach, c'est un petit peu à ce moment-là, un quart du championnat que l'on voit un peu l'état des troupes, parce qu'il y a tellement de questions. Imaginez-vous, samedi soir, les deux tiers de l'équipe étaient renouvelés. Il n'y avait que 4 joueurs, dont un qui avait changé de poste, qui avait disputé le dernier match face à Nice. Donc il y a vraiment beaucoup, beaucoup d'interrogations. Alors le match de samedi face à Strasbourg en a éliminé quelques-unes, hein, notamment Diaz qui a marqué. Donc ça va peut-être lui enlever le côté vous êtes le successeur de la Lacazette, vous marquez pas, bah voilà, c'était, c'est déjà fait. On a vu un bloc équipe, on a vu de la concentration, on a vu de l'application, ça manque d'automatisme. Et puis, comme l'a dit Thierry Loret, on a vu une boule de feu devant et un diable sur les côtés. Le diable, c'est Traoré, Bertrand de son prénom, et puis la boule de feu, c'est Mariano Diaz. Donc voilà, il y a beaucoup d'inconnus qui font que, pour l'instant, on ne dit pas, on veut absolument aller en Ligue des Champions. Non, pour l'instant, petit à petit, on veut construire quelque chose, et puis on verra du côté de la dixième journée, en sachant qu'il y a l'Europa League. Alors, pas forcément comme objectif final, mais en tout cas, une aventure à faire, en sachant que la finale est au Parc OL.
Cédric est avec nous, il est supporter de l'OL au 32-16. Cédric, bonjour.
Bonjour à toute l'équipe, bonjour.
T'as Salut, entendu Luca Touzard, les ambitions et tout. Qu'est-ce que t'en penses, toi? Est-ce que le podium, ça te semble tout à fait réalisable? Ça te semble peut-être un minimum? Enfin, quel est ton avis sur la question?
Bah pour moi, déjà, je pense que le podium peut être accessible, vu que Monaco a quand même pas mal dégraissé et on connaît pas un petit peu les recrues qu'ils ont amenées. Bon, pour moi, je suis d'accord avec Roland Courbis quand il dit que pour moi, le PSG finira premier cette saison. Maintenant, j'espère que l'on va pouvoir prendre la locomotive du devant. On a vu de très bonnes choses contre Strasbourg. Maintenant, il faudra voir avec une autre confrontation, parce que ça reste que Strasbourg, malgré le respect que j'ai pour eux. Mais,
oui, s'il te plaît.
Mais j'ai aimé beaucoup de choses. Sincèrement, défensivement, on a retrouvé un état d'esprit et c'était sérieux, c'était costaud. Et je vous avais eu au téléphone il y a un an et demi quand Lyon avait pris une petite raclée par rapport à Paris, où je vous avais dit que Lyon, il fallait qu'il change un petit peu de système, d'arrêter avec du 100% lyonnais. Et d'ailleurs, Gilbert, tu m'avais dit que c'était impossible, infaisable à Lyon. Et un an et demi après,
on arrête sautait. Complètement le 100% lyonnais.
Bah, je trouve que là, quand même, on a pris quand même Mariano Diaz.
À partir du moment où tu mises sur un centre de formation, c'est que c'est pour faire jouer des joueurs. Sinon,
tout à fait, mais c'est bien d'en avoir. Lyon, on a quand même. Mais ce que je veux dire, c'est que Bertrand Traoré, moi, il a pas marqué contre Strasbourg. Mais moi, j'ai regardé le match. Le match qu'il fait, c'est du 100%, quoi. C'est très fort, très très fort devant. Mariano Diaz, inconnu au bataillon, il a fait quand même pas mal de choses. Il marque un doublé. Et comme disait encore Roland, je le rejoins par rapport à un joueur qui est pour moi une recrue cette année, c'est Nabil Fekir. Physiquement, il est affûté comme jamais. Je pense que le fait d'avoir le brassard va le responsabiliser sur le vestiaire et sur le terrain. Donc, je pense qu'on peut avoir un bel avenir pour Lyon au niveau du championnat et la Coupe d'Europe qui, sans oublier, la finale se joue au Parc OL. Donc, il y a moyen de faire quelque chose de sympa. Et en tout cas, dans le jeu contre Strasbourg, ils nous ont montré pas mal de choses intéressantes. Maintenant, il faut que ça continue et que ça dure. C'est bien beau de faire 2-3 matchs jolis, mais si après, à Lyon, il y a toujours le creux là, avant l'hiver où ça perd pas mal de matchs. Donc, j'espère que ça va rester régulier. Et voilà quoi. Donc, après les recrues, okay. Et le terrain, moi je suis content. J'espère que Darder, on va le voir. Parce que pour moi, Darder est un joueur excellent. Il n'a pas beaucoup joué l'année dernière, mais je pense qu'il se complète pas mal avec Toussard, où Toussard, il est plus, comme il le disait, derrière, et Darder un petit peu plus projeté vers l'avant.
Justement, on va avoir l'avis d'Edouard là, sur le recrutement annoncé encore au milieu de terrain. On va en parler dans quelques instants, juste après notre rappel chaque heure de l'actualité sportive avec Mathieu Charest. C'est parti, c'est comme ça, à l'admis de chaque heure sur RMC tous les soirs.
Oui, le champion du monde du 800 mètres est français. Il s'appelle Pierre-Ambroise Boss. Le Nantais a décroché l'or hier soir à Londres. Une victoire acquise à la surprise générale grâce à une accélération risquée dans les 300 derniers mètres.
Je suis passé avec une telle ferveur dans cette ligne que j'y croyais pas. Je pense qu'ils se sont dit suicide. C'est impossible qu'ils tiennent jusqu'au bout. Même moi, j'y croyais pas. J'ai commencé à y aller et puis je me suis dit, il y a une émotion qui a traversé mon esprit. Il m'a dit, RAB, le vrai, rien à branler. Je me suis dit, j'y vais. Je m'en fous, c'est pas grave si ça passe pas. Et ça faisait longtemps que ça m'était pas arrivé un truc comme ça. Et j'avais vraiment l'impression d'avoir 15 ans dans cette course. Le gamin qui veut son jouet, qui est au bout et il va l'avoir.
Pierre-Ambroise Boss au micro de François-Xavier de Châteaufort. Et puis à la perche, Renaud Lavillenie ne décroche pas son premier titre mondial. Hier soir, le Clermontois a échoué deux fois à 5,95 m, une fois à 6,01 m et se contente donc du bronze. Derrière le Polonais Lisek en argent et l'Américain Kendricks en or. Ce soir, à suivre les demi-finales du 200 mètres hommes. Et Christophe Lemaître aura fort à faire dans une course particulièrement relevée. À ses côtés se trouvera notamment Wade Van Niekerk, recordman et nouveau champion du monde du 400 mètres. Les deux demi-finale à suivre à partir de 21h55 en direct sur RMC. Et puis en clôture de programme, la finale féminine du 400 mètres. L'américaine Allyson Felix aura l'occasion de décrocher une 14e médaille mondiale 12 ans après la première. Ce serait un record à égalité avec un certain Usain Bolt. Ce soir également, le coup d'envoi du mondial féminin de rugby, ça se passe en Irlande. Les Bleus font leur entrée en lice face au Japon à 20h45. Une équipe de France ambitieuse mais prudente à l'image de l'arrière Montserrat Amédée.
On va prendre un match un après l'autre, le Japon. Voilà, c'est une équipe où nous, il faudra qu'on mette notre jeu en place directement sur le premier match de la Coupe du Monde et voilà, apporter toute cette fraîcheur qu'on a et qu'on a envie d'être sur ce premier match déjà. Et voilà, après sur les deux autres matchs, sur l'Australie et l'Irlande, mais pareil, il faudra élever notre niveau de jeu directement et montrer qu'on est venu en Irlande pour battre déjà les Irlandais chez elles et après aller voir plus loin.
On sera à m'aider au micro de Maureen Lehoux. Premier match donc ce soir face au Japon. Un match à suivre en direct sur RMC avec Laurent Depré. Ce sera à 20h45. Et puis en tennis, les deux plus grands joueurs du monde entrent en lice ce soir au Masters 1000 de Montréal. Roger Federer affronte le Canadien Polanski et Rafael Nadal est opposé au Croate Koric. L'Espagnol qui pourrait redevenir numéro 1 mondial lundi s'il reste au Canada au moins jusqu'en demi-finale.
Merci Mathieu, et à tout à l'heure, 18h30. 18h30, on aura déjà une demi-heure d'athlé derrière nous, puisqu'à 18h, c'est bien sûr les championnats du monde d'athlétisme à Londres en direct sur RMC. Edouard est toujours avec nous pour parler de l'Olympique Lyonnais. Oui donc, on l'a dit tout à l'heure avec Lucas Touzard, petite info mercato à répéter, Morel reste à Lyon, a priori plutôt pour joueur défense centrale, alors qu'il y avait éventuellement un contact avec Bordeaux. Ouais. Et donc, on annonce encore une recrue au milieu. Alors, est-ce que éventuellement t'en sais un peu plus?
Alors au niveau du profil, Bruno Genesio nous l'a dit ce matin, c'est plutôt un milieu pour seconder Lucas Touzard, pour le remplacer au cas où, parce que pour l'instant si Lucas Touzard est blessé, ben il y a personne derrière, tout simplement parce que sur le papier c'est Christophe Martins Pereira qui est un jeune du centre de formation, on l'a vu avec l'équipe du Luxembourg face à la France, qui s'est fait opérer récemment du genou, donc il a pour quelques semaines out, donc ce serait un remplacement, un potentiel remplaçant à Lucas Touzard, voilà, pour muscler un petit peu le milieu de terrain dans ce schéma qui est bien établi, c'est sur lequel coach Bruno Genesio a travaillé, le 4-2-3-1 avec ses deux milieux dont là pour l'instant Lucas Touzard et Sergi Darder qui sont pour l'instant les titulaires. Il l'était face à Strasbourg, ouais. Et a priori vendredi soir à Rennes, ça ne devrait pas changer au niveau.
Faut pas s'attendre à un Cador, quoi, hein, c'est un second couteau qui va...
Oui, mais bon, ça peut, c'est un joueur important puisqu'il aura l'occasion de jouer. Puisque là, on s'oriente justement vers un 4-2-3-1,
oui.
Qui pour moi est l'organisation préférée et la meilleure organisation pour Fekir. Alors je dis pas que on doit faire obligatoirement les organisations en fonction d'un joueur. On est dans un sport collectif, mais je pense que l'effectif de Lyon me paraît plus être adapté à jouer en 4-2-3-1, notamment pour mettre Fekir dans les meilleures conditions qu'en 4-3-3.
Et franchement, Nabil Fekir, pour le suivre au quotidien avant sa blessure, pendant la blessure malheureusement aussi, et après, c'est vraiment un tout autre homme. Et coach, tout à l'heure tu disais peut-être que le meilleur recrutement de l'été c'est lui, en tout cas. Et franchement, le brassard de capitaine, ça l'a totalement changé. Et puis là, il a retrouvé sa vitesse, notamment dans le quatrième but face à Strasbourg, hein. On a vu le Fekir nouveau, c'est-à-dire cet enchaînement contrôle frappe rapide, et ça c'est un vrai atout pour l'OL cette année.
Alors, il y en a un qui est moins confiant que notre premier supporter lyonnais de tout à l'heure, c'est Alexandre, qui est là au 32-16. Alexandre, bonjour.
Bonjour à tous.
Salut. Alors, Alexandre.
T'as entendu quand même que, bon, globalement, Lucas Touzard est positif. Edouard, qui suit le club, je pense, l'est également. Alexandre, toi, qu'est-ce que t'en penses? Est-ce que tu crois que l'objectif podium, voire le fameux titre de vice-champion, de deuxième champion, dirait presque coach Courbis, est atteignable par l'OL?
Pour le titre de vice-champion, je pense pas. Je pense que quand même Monaco reste au-dessus. Même s'ils vont perdre des joueurs, je pense qu'ils recruteront en conséquence. Pour le podium, ça me paraît aussi compliqué. Pour moi, Nice est meilleur. Ils ont tout simplement un meilleur entraîneur. et de très loin, des joueurs de très bons joueurs aussi. Donc voilà, pour moi ça reste, Lyon reste encore en dessous tant qu'on changera pas d'entraîneur et tant que on recrutera toujours pas, parce que pour moi la défense centrale Morel Marcelo, ça peut pas tenir la route pour un club aussi ambitieux que Lyon. Voilà, Nkoulou Mamana, pour moi ça restait supérieur à Jérémy Morel.
Alors Mamana, il faut tout de suite évacuer certaines choses parce qu'il y a vraiment des choses qui sont un petit peu énervantes. Emmanuel Mamana, il y a sur la toile, il y a un gros lobby derrière lui. Il faut savoir que c'était un joueur, oui, qui était très constamment triste. Je dirais pas déprimé, mais en tout cas, quand humainement parlant, voilà, ça n'allait pas ce qui se passait à Lyon. Donc, quand on est dans cet état-là, voilà, donc
c'est plus ça que des raisons sportives, en fait.
Voilà. Donc après, vous avez tout un staff qui le suit régulièrement, qui le voit tous les jours, et finalement, il est pas titulaire. Donc moi je veux bien, et moi je suis quelques entraînements, je veux bien qu'on ait tout plein d'avis sur internet et sans voir les joueurs de près. Voilà, après faut voir ce qu'il fait au Zénith, à Saint-Pétersbourg. Mais là franchement j'ai quand même assez confiance dans le staff qui voit un joueur tous les jours. Alors après on verra, Bruno Genesio est un entraîneur, et comme le disait Jacques Santini, un entraîneur c'est un homme de résultats. Donc on verra ce que ça va donner et si cette charnière centrale donne raison ou pas, mais en tout cas voilà, les choix ont été faits, surtout pour un joueur acheté 7,5 millions quand on a une proposition à 16 millions et que c'est un joueur qui n'est pas titulaire l'année dernière et qui était le quatrième choix cette année. Je pense qu'il y a un choix aussi à faire à un moment donné.
Bon, je te suis attentivement, même si je suis d'accord qu'en partie, puisque maintenant on va suivre ce que va faire Mamana au Zénith, mais c'est pas parce que Mamana va flamber au Zénith, et on doit lui souhaiter, qu'il aurait obligatoirement fait les mêmes matchs avec Lyon. On peut pas savoir. Moi, je pense que la connerie, si on peut parler de connerie sur Mamana, elle a tout simplement été faite parce qu'on demande trop à un joueur de 19 ans. Exactement. Qui débarque de l'Argentine, qui arrive dans un club comme Lyon avec des ambitions élevées. Le gars, quand il arrive, il pensait, si tu veux, certainement être associé dans un duo avec un Marius Trésor de l'époque ou un Bernard Bosquier, mais on lui demande à lui d'être le Marius Trésor ou le Bernard Bosquier. C'est là, je pense, qu'on se plante. C'est qu'on lui a trop demandé trop tôt. On devait être un peu plus patient, mais de l'autre côté il y avait les besoins aussi de Lyon, et quand après tu vois que chaque charnière centrale ne marche pas bien, c'est parce qu'après des fois tu n'as pas assez de choix, là tu en as trop. Quelle que soit la charnière, il y avait un problème. Alors que si tu prends les joueurs individuellement, Mapu Yangambiwa, il n'est pas devenu mauvais du jour au lendemain. Nkoulou, Diakabi, Mamana, ça fait que des bons joueurs qui n'arrivent pas à former un bon duo. Il y a quand même un problème.
Oui, et puis avec Mamana, avec une histoire personnelle tragique derrière lui qu'il a laissé en Argentine. Bref, tout ça, ça fait partie de l'histoire d'un joueur. Ouais. Et puis l'année dernière, Nkoulou a été blessé aussi à un moment donné un genou. Voilà, ça met tout en perspective. Et c'est vrai que de toujours jeter sur l'entraîneur certaines choses qui sont à côté.
Par exemple,
et humaines, c'est un petit peu
embêtant. Mamana qui débarque, s'il arrive et qu'il y a Marcelo avec sa trentaine d'années et qui joue aux côtés de Marcelo, peut-être c'est pas la première année.
Du coup on a dévié sur le Camamana, Alexandre, alors que oui. Bon, tu parlais pas que de lui, hein, tu parlais de la défense centrale et tu comparais celle d'aujourd'hui et de la saison dernière.
Non mais je comprenais sur Mamana, voilà, il a eu le mal du pays, il a eu un enfant, voilà, c'était peut-être pas forcément sa meilleure saison pour lui, après voilà. C'est pas forcément juste sur lui. Voilà, pour moi, le milieu de terrain, je sais pas s'il est supérieur. Voilà, Tolisso, c'est largement supérieur à Darder, même si j'aime bien Darder. Il est technique, mais voilà, on sait quand même pas le. Pas
un
la
joueur
même
qu'on parle jamais, donne-moi ton avis. C'est oui. le petit, je sais pas, par sympathie, Ferry. C'est pas un joueur qui peut s'imposer. Dans la formule, à une certaine époque, où il y avait allez, le milieu en losange là. Et Ferry, Gonalon, Tolisso, mais il jouait les yeux fermés, et Ferry n'était pas inférieur à cette époque-là, ni à Gonalon, ni à Tolisso. Et lui aussi est devenu mauvais?
Ben non, il a joué le match amical hier soir face à Chapecoense. Il était intéressant, même si on sent beaucoup de frustration dans son jeu, justement de frustration de ne pas être titulaire. Voilà, pour l'instant, lui, comme Clément Grenier, n'arrive pas à passer le cap pour être titulaire, hein, parce que le 11 de départ, pour l'instant, celui de la semaine dernière, sauf blessure, va être reconduit demain soir et pourrait l'être.
Des fois, il y a des repères qui sont faciles. J'en donne l'idée, après on verra si ça plaît ou pas. Si dans une équipe tu as Grenier et Ferry qui ne sont pas titulaires, tu as une grosse équipe, hein.
Alexandre,
Pour Ferry, je suis moyennement d'accord. Voilà, à peu près tous les ans il commence remplaçant et il arrive à s'imposer au fil des blessures et du temps de la saison. Après sachant qu'on a que deux milieux de terrain, quand on joue en 4-2-3-1, Toussard Dardère, ça me paraît complémentaire, et je pense quand même que c'est les deux meilleurs joueurs au milieu de terrain. Donc il n'y a pas de honte pour Ferry à être le troisième.
Ah non, mais je suis d'accord avec toi.
Après Grenier, je pense que voilà, il faudrait limite qu'il se trouve une porte de sortie, parce que si c'est le troisième relayeur derrière Dardère et derrière Ferry, il va pas jouer beaucoup cette année. Donc pour Grenier, son cas me semble un peu plus compliqué.
Merci Alexandre.
Salut Alexandre.
Et à bientôt Edouard. Merci beaucoup.
De rien.
Écoute, on va voir maintenant ce qui se passe. On le rappelle, le mercato n'est pas tout à fait terminé à Lyon. Ils ont quand même été très actifs. Voilà. Et puis on a entendu Lucas Touzard nous dire que Bertrand Traoré l'impressionnait. Donc on va voir ce que ça donne à l'usage.
Mais ce joueur-là, d'après ce qu'on entend à droite à gauche, le talent, il y est. Là où il va falloir qu'il progresse, paraît-il, c'est sûr, comme beaucoup de joueurs, la régularité des performances, ou ces performances, ce sont des hauts et des bas. Donc là, on verra ça, et on peut pas voir ça après 8 jours.
Et on verra tout ça à partir du 17 septembre. Hein. PSG-OL le 17 septembre, là on sera un peu fixé sur le niveau. Hein.
Merci Edouard.
Eh bien, au plaisir.
Bonne soirée. Dans quelques instants, on revient sur la Super Coupe d'Europe. C'était hier soir le premier gros match international de l'année. Real Madrid, Manchester United. Le Real l'emporte 2-1. Un titre de plus pour Zidane. Mais Manchester, en fin de match, tout de même, avait les occasions pour revenir. Le Real va-t-il tout gagner cette année? On vous attend au 32-16, supporters du Real et de Manchester. Dans quelques instants, Philippe Auclair sera avec nous. Tiens, dans l'intégral foot, tout de suite.
RMC, Intégral Foot, Roland Courbis, Super Grégoire.
Coach, l'Intégral Foot est là jusqu'à 18h. Ensuite, il y aura l'athlé en direct de Londres, les championnats du monde qui continuent ce soir de 18h à 23h et puis l'after de 23h à minuit. Avant de parler de la Super Coupe d'Europe avec Philippe Auclair, de nouvelles infos d'Embélé. Tout à l'heure, Mohamed, en début d'Intégral Foot, nous expliquait la situation. On a de nouvelles infos à vous livrer. Le prix du transfert, on a une fourchette un peu plus précise. Entre le Borussia et le Barça, ça devrait se régler entre 120 et 140 millions d'euros. Ce serait donc plus que Pogba l'an dernier, un peu moins que Neymar.
C'est pas la même intersaison. Maintenant, on s'est habitué à certaines sommes. Rappelle-toi ce qu'on a dit il y a pas plus d'une demi-heure. C'est que ce soit à 119, à 112 ou à 124, ils tomberont d'accord.
En tout cas, c'est quand même une somme énorme. Et Rennes, club formateur donc de Dembélé, rappelez-vous, avait vendu Dembélé pour 15 millions à Dortmund. Il y avait dans ce fameux contrat ce qu'on appelle une droite suite, donc un bonus en cas de revente supérieur à 5 millions. Bon, là, on est largement au-dessus des 5 millions. Donc, au total, Rennes devrait récupérer 25 millions, soit 40 au cumulé, en fait, entre le transfert de l'an dernier et celui à Barcelone.
Il y avait donc pourcentage sur la revente. Donc après, il y a certaines fourchettes. Oui, plus ou moins, on disait tout à l'heure 35 millions, ce serait plus ou moins 40. Allez, oui.
Voilà, des chiffres.
C'est une très belle opération.
Voilà, des chiffres que les clubs anglais auraient peut-être pu aligner. Bon, cher Philippe Auclair qui nous rejoint. Salut Philippe.
Parce que là aussi, on parle de records de transfert. Il peut y avoir aussi des records pour Rennes de participation à un futur transfert un an après d'un joueur transféré.
Tu as dit quelle somme, Gilbert? Je
te parle d'un transfert
de Dembélé au Barça entre 120 et 140. Et au total, entre le transfert de l'an dernier, 15 millions de Rennes à Dortmund et le bonus qu'ils vont récupérer, ça fera 40 millions récupérés par Rennes au total.
Donc, effectivement, donc 25
c'est,
millions.
C'est un record de bonus, comme le dit Roland.
Ah ben oui. Voilà. Mais là, ça sent les hommes d'affaires avec François Pinault et René Rulot.
Peut-être. Voilà. Donc, à confirmer dans les heures qui viennent ce transfert. Alors, Philippe, si tu es là, c'était pas pour parler du transfert de Dembélé, hein, mais de la Super Coupe d'Europe d'hier soir entre le Real et Manchester United. 2-1 pour le Real. Un Real qui continue sur sa lancée de la Ligue des Champions. Zidane, décidément, qui gagne toutes ses finales depuis qu'il est là. Toi, tu es en Angleterre, bien sûr. Qu'est-ce qu'on dit de Manchester United ce matin? Parce que moi, hier soir, j'ai eu plutôt tendance dans l'after à les défendre. C'est-à-dire que, notamment en fin de match, Manchester a eu clairement des occasions pour revenir et égaliser. Moi, j'ai pas trouvé un Manchester si cataclysmique que ça hier soir.
Non, d'ailleurs, c'est un petit peu l'opinion générale ici, en ce sens que bon, tout le monde reconnaît la supériorité du Real Madrid, de son milieu de terrain, de ceci, de cela, Isco, oh, les 10 tirambes qui pleuvent sur Isco, c'est quelque chose d'extraordinaire, et ça, c'est tout à fait normal.
Eh oui. Mais d'un autre encore côté, encore une soirée d'Isco.
Waouh, ouh, et mais d'un autre côté, je pense que l'autre chose qui est soulignée, c'est que cette équipe de Manchester United qui a vu quand même certains joueurs arrivés à l'intersaison et qui étaient présents sur la pelouse hier. Je pense notamment à Matic et Lindelof qui ont eu des matchs assez contrastés, dirons-nous. Lindelof a pas été franchement convaincant alors que Matic a franchement fait du très très bon boulot. Et on s'accorde plutôt à penser que même si l'écart entre les deux équipes était flagrant, Manchester United n'a pas été ridicule, loin de là. Le cinquième de la Premier League contre le vainqueur de la Liga, le vainqueur de la Ligue Europa contre le vainqueur de la Champions League. Bon, on s'attendait pas à ce que ça soit un match qui soit disputé entre égaux. Mais cela dit, particulièrement comme tu le soulignais, Gilbert, la réaction en fin de match après l'introduction de Merwan Fellaini. Au passage, je pense qu'on peut oublier les désirs de départ de Merwan Fellaini. Hein. Tu te souviens peut-être que au mois de juin,
il était un petit peu mis de côté. Donc
il était un peu mis de côté, mais d'un autre côté, on voit combien il est important dans les dispositifs de José Mourinho, qui sont peut-être pas les dispositifs les plus subtils qu'ils soient ou les plus doux pour l'œil. Bon, c'est vrai que tu peux critiquer le côté très très direct entre guillemets des attaques de Manchester United dans les dernières 20 minutes. Le fait est que le Real Madrid a souffert et que c'est quelque chose que l'on remarque ici, et on pense que c'est une fondation plutôt prometteuse, dirons-nous, pour l'équipe de Mourinho, qui encore une fois est une équipe qui est en développement. Elle était face à une équipe du Real Madrid qui n'a pas changé du tout en fait. Et qui n'a pas eu à introduire de nouveaux recrues comme ça a été le cas pour celle de Mourinho. Et donc, bilan globalement positif, même si une défaite reste une défaite, et qu'encore une fois, on va certainement pas hurler que Manchester United est à la hauteur du Real Madrid. Ça serait absolument aberrant. Mais en tout cas, c'est vrai, un bilan peut-être plus encourageant que ce qu'on aurait pensé après 45 minutes.
Beaucoup de débats, Philippe et coach, concernant le match de Pogba également, plus les mois passent, et plus la fanbase de Pogba se réduit. C'est-à-dire qu'il y a de plus en plus de monde qui est quand même, c'est quand même incroyable. Il n'est plus décisif, on le voit parfois courir dans le vent. Roland, qu'est-ce que tu as pensé de son match hier?
C'est-à-dire que bon, je le regarde toujours avec beaucoup de curiosité par rapport à son statut, et aussi par rapport à ce qu'on dit logiquement depuis plusieurs années, que c'est un futur grand joueur. Pour le moment, il y a futur avant de parler de grand joueur, et c'est sa marge de progression qui existe. Mais on ne la voit pas, dans le sens que je ne vais pas le juger sur uniquement le match d'hier. On attendra encore quelques semaines, quelques mois, et voir un petit peu la saison. C'est pas facile pour lui d'assumer 100 millions d'euros à cette intersaison. Ça aurait été beaucoup plus facile. Il arrive à Manchester, on attend beaucoup de lui. Donc pour le moment, ses progrès dans cette marge de progression. Je suis désolé, ou si c'est moi peut-être qui ai un problème de vue, mais je ne les vois pas.
Philippe, t'es d'accord ?
Excuse-moi, j'avais coupé mon micro pour ne pas vous déranger. Mais oui, tout à fait. Et je pense que c'est également le point de vue, là aussi, de la grande majorité des analystes qui n'ont pas été franchement enthousiasmés par sa prestation en Supercoupe. Cela dit, coach, moi, ce qui me fait espérer qu'on voit du mieux très bientôt de la part de Paul Pogba, c'est le fait qu'il va jouer dans une équipe qui a été littéralement construite pour lui, je pense au recrutement de Nemanja Matic, parce que bon, on joue en 4-3-3 hein, du côté de José Mourinho, même s'il a tâté le terrain avec une défense à 3 par moment, mais c'est 4-3-3 a priori avec Pogba sur le côté gauche, mais avec beaucoup de liberté pour repiquer dans l'axe et, ouais, et percer les lignes. Hein. Quand tu as Matic et Herrera derrière toi, ça simplifie largement le travail. Hier, contre le Real Madrid, Matic a été là et bien là. Herrera a été épouvantable. Pour moi, l'un des pires matchs qu'il ait jamais disputé pour Manchester United. Et quand on va voir cette équipe se mettre en place, ce système se mettre en place, et Pogba disposer, je dirais, de plus de liberté dans le dispositif tactique de Mourinho, à mon avis, on verra un Pogba de bien meilleure qualité que ce qu'on a vu l'année dernière, où il a marqué que 5 buts en championnat. C'est quand même très très peu pour un joueur de son envergure. Alors, rappelons que Mourinho, il lui a fixé un objectif de 15 buts en Première Ligue cette saison. Hein.
Passons maintenant au Real, parce que le Real a gagné, et le Real a joué sans Cristiano Ronaldo.
Gilbert, juste peut-être une petite info pour Manchester United, oui, le fait que l'on parle de Zlatan Ibrahimovic restant à Man U. Ah. Cette saison,
re-signant en fait, parce que
re-signant puisque son contrat est parvenu à échéance. On sait qu'il a été blessé au genou et très gravement, qu'il est encore en phase de convalescence. Mais je crois que c'est notre ami Mino Raiola, si je juge des noms par lesquels j'ai entendu cette rumeur. Je pense que on est en train de placer des pions du côté de Zlatan pour éventuellement peut-être rallonger d'un an son séjour à Old Trafford. Donc pour l'instant, à prendre avec des pincettes, mais en tout cas c'est dans les tuyaux.
Pourquoi pas?
Pourquoi pas?
C'est un garçon Zlatan qui n'arrête pas de surprendre, donc il nous surprendrait jusqu'au bout. Pour terminer avec Pogba, je suis quand même surpris que les objectifs d'un entraîneur aussi talentueux que Mourinho pour un Paul Pogba, ce soit un nombre de buts. Oui, qu'il puisse marquer dans un rôle de 8 à 10 buts, d'accord, mais avant tout qu'il soit décisif sur les dernières ou avant-dernières passes, sur la récupération du ballon, que ce soit un garçon qui se dégage à chaque match comme l'un des deux meilleurs joueurs de Manchester. C'est ça que j'attends de voir. Et ça, pour le moment, je ne le vois pas.
Kevin, bonsoir.
Bonsoir.
Kevin, bonsoir, Kevin. Toi, tu es bonsoir, supporter Kevin de Lens, hein, donc tu as regardé ce match en tant que passionné de football. On va parler du Real un peu avec toi. Je rappelle quand même que le Real a joué une bonne partie de la rencontre sans Cristiano, qui a repris seulement il y a une semaine, après la Coupe des Confédérations. Mmh. Bon, il a eu plus de vacances. Et le Real t'a plu, hein, sans Cristiano.
Oui, clairement, parce que, en fait, ce que je pense, c'est que le Real, en fait, n'était pas encore physiquement prêt, en fait, à ce niveau-là. Je pense que comment je pourrais dire, c'est plus au niveau tactique, en fait, que le match s'est joué, parce que physiquement ils sont fait rentrer dedans par Manchester United avec Lukaku et tous les joueurs du style, il y avait Lukaku, il y avait Ander Herrera, tout ça, qui ont essayé. Sauf qu'après, techniquement, ils étaient au-dessus, et je pense qu'au niveau automatisme, tout ça, le Real était bien, bien meilleur à ce niveau-là. Enfin, après, je sais pas si vous êtes d'accord avec moi, mais.
Ah ben oui, en plus de ça, le Real, qui ne cherche pas d'excuses, démarre son match sans Ronaldo. Il n'utilise Ronaldo que dans les 10 dernières minutes, parce que bon, il a eu une préparation particulière. Il gagne quand même, ça passe totalement inaperçu, l'absence de Ronaldo. Et une fois de plus, on voit une équipe du Real avec plusieurs formules intéressantes.
Ouais, mais à ce niveau-là aussi, quand tu regardes, il remplace Ronaldo, mais derrière, t'as Lucas Vázquez. C'est le caviar et le foie gras, quoi. Donc
hier, Kroos, Modric aussi,
ils sont très forts.
Là, bon, c'est des étoiles.
Et Casemiro qui a été absolument phénoménal.
On a assez peu parlé de Benzema hier soir dans l'after, qui globalement a fait son match lui aussi. Donc
Benzema, si tu veux, c'est un petit peu dans une catégorie différente. C'est un petit peu comme Germain. Ce sont des joueurs qui s'adaptent à tout, qui sont discrets. C'est peut-être un défaut dans leur carrière, mais qui finalement, dans toutes les formules, tu les vois intéressants.
Ouais, mais malgré tout, Benzema, à ce niveau-là, je pense qu'il a vachement étiré le bloc mancunien, parce qu'à chaque fois, il était tout le temps placé très assez en hauteur. Et puis en plus, quand on regarde sur le but Disco, c'est lui qui avait fait à la base reculer la défense. Donc bon, après, moi, ce qui me fait peur, c'est au niveau Manchester United, ils ont, au niveau défensif, c'est pas... Enfin, je sais pas si Philippe Auclair peut répondre, mais je trouve qu'ils sont pas assez assez performants à ce niveau-là, parce que...
Il leur manquait leur meilleur défenseur, hein, Eric Bailly, qui était suspendu.
Ouais, ouais. Ouais,
donc ça fera de la différence, de la même façon que Rojo peut également faire la différence, de la même façon que Danny Blin peut faire une différence, de la même façon que, encore une fois, Herrera, qui est un joueur pourtant sur lequel on peut compter d'habitude, franchement, a été transparent et n'a pas fait le boulot qu'on attendait de lui contre Real Madrid. Mais c'est vrai que la défense reste un problème, sauf un David De Gea. Je pense que toi qui es supporter du Real, Kevin, hier soir, t'aurais largement troqué Keylor Navas pour David De Gea au vu de leurs prestations respectives.
Merci Kevin et merci Philippe également.
Salut,
merci
Kevin,
à
vous les gars. Salut Vivi.
À très vite, reprise de la Première Ligue ce week-end, je le rappelle, sur SFR Sport 1. Et tout de suite, nous, on enchaîne avec le récapitulatif des courses du jour à Saint-Malo. Sébastien Larras.
Salut Gilbert, bonsoir à tous. Notre quintet disputé à Saint-Malo aujourd'hui, c'était la 8e étape du Grand National du Trot, remportée par le 5 Bellavis devant le 4 au Fort de Mire, le 2 Boléro des Vignes, les 3 premières places aux favoris. Ensuite, le 8 Viat Camadric est 4e devant le 16 Tiger Danover, 5, 4, 2, 8 et 16 pour un quintet qui rapporte 2 800 €. Dans l'ordre, demain on prend la direction d'Anguin, toujours les trotteurs pour ce prix de la Concorde, dans lequel le 13 Unero Montaval pourrait se montrer redoutable. Il cherche sa course, on espère qu'il la trouvera. Et puis un petit outsider avec le 2 Vacato qui grimpe un peu de catégorie. D'autres infos comme d'habitude sur rmcsport.fr.
PMU.fr, Paris Sportif, Paris Hippique, Poker. Jouer avec excès comporte des risques. Appelez le 09 74 75 13 13. Appel non surtaxé.
Coach, on est de retour demain dans l'intégral foot. Et oui, tout de suite, on part à Londres. Le championnat du monde d'athlétisme qui continue. Ce soir, faut pas s'attendre au même festival de médailles qu'hier soir. Hein, mais enfin, on a quand même une magnifique soirée d'athlétisme à venir. Nicolas Jamin, bonsoir.
Salut Gilbert, salut coach, salut à tous. Effectivement, non, salut. Ce soir, c'est officiel, il y aura pas de médaille parce qu'il n'y a pas de finale pour les Français. Tout simplement, on va retrouver Christophe Lemaître pour la demi-finale du 200 mètres. On aura également les qualifications du poids et Quentin Bigot qui a une chance de podium. Et surtout, on va revenir sur la soirée exceptionnelle vécue hier soir en direct sur RMC et du Stade Olympique de Londres. Le 800 mètres remporté, le titre mondial gagné par Pierre-Ambroise Boss, 6e champion du monde français de l'histoire quand on parle d'athlétisme. Beaucoup d'invités et on attend ici en direct également le héros de la veille, Pierre-Ambroise Boss. A tout de suite, c'est parti pour l'intégral sport spécial athlé jusqu'à 23h.
RMC, intégral foot.